Bonjour, ici Lovie. Bienvenue au troisième épisode. Aujourd'hui, on va vous parler de la censure. Pour cet épisode, on essaie un nouveau format. On vous présente une mise en scène d'un tribunal pour faire le procès de la censure. On va d'abord entendre la procureure, ensuite la défense et un témoignage de Marie-Claude Lacroix, une vraie avocate pour nous éclairer sur le sujet. En terminant, nous allons vous présenter le verdict final. Restez à l'écoute!
Le dictionnaire Larousse définit la censure comme un examen préalable fait par l'autorité compétente sur les publications destinées au public et qui aboutit à autoriser ou interdire leur diffusion totale ou partielle. On est réunis ici pour faire le point une bonne fois pour toutes. Faut-il interdire la censure complètement? Ou est-elle justifiée dans certains contextes? Madame la procureure, on vous écoute.
Tout d'abord, qu'est-ce que la censure? Eh bien, cher juge, c'est simplement une façon à laquelle se raccrochent les gens possédant de l'autorité pour la garder sous prétexte de répondre au moral de la société. Ils se permettent d'intervenir dans l'art que nous admirons, dans la musique que nous écoutons et même dans les livres que nous lisons. L'histoire nous l'a prouvé maintes fois, notamment avec l'exemple de censure la plus flagrant lors de la création de l'index de livres interdits en 1559 par le pape Paul IV. Avec le temps, il y a même eu le phénomène d'autocensure qui s'est instinctivement développé chez tous ceux qui souhaitent partager leurs arts avec autrui, mais ayant tellement peur d'être jugés, humiliés ou pire, contrôlés, ont commencé à s'autocensurer. De nos jours, la censure est tout aussi présente, mais beaucoup moins flagrante, puisque les autorités ne souhaitent pas s'attirer les foudres du public. Aussi, cela ne veut pas dire que je désapprouve totalement la censure ou que je souhaite que l'on s'en débarrasse, mais juste d'essayer d'être ouvert et de ne censurer que lorsqu'il ne reste qu'un pas entre la liberté d'expression et la violence.
Merci pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer au témoignage de la défense.
Bonjour à tous, je m'appelle Mina. Aujourd'hui, je représente mon client la censure. Je vais essayer de prouver à la cour que la censure peut être importante ou même essentielle. Dans certains contextes, on ne doit pas la bannir complètement. Les arguments principaux que je vais vous présenter aujourd'hui se divisent en deux catégories. La sécurité et la désinformation. La sécurité de la vie privée. La censure peut être utilisée pour protéger la vie privée des personnes en empêchant ou limitant la publication d'informations ou de données personnelles. Sans censure, nos informations personnelles seraient davantage en péril. La sécurité des enfants ou des populations vulnérables. L'utilisation de la censure est importante pour contrôler l'accès à des contenus vulgaires ou inappropriés à des populations comme les enfants. Les réseaux sociaux sont un bon exemple de médias pas assez censurés puisqu'ils donnent accès aux enfants en très bas âge à des contenus qui peuvent être traumatisants ou déplacés. La censure permet de les protéger de ce contenu. La désinformation et l'utilisation des techniques de l'information de masse pour induire en erreur, cacher les faits et provoquer une réaction émotionnelle. Ne pas censurer des propos comme ceux de la théorie du complot pendant la Covid par exemple peut résulter en de vraies conséquences parfois fatales pour les personnes vulnérables. Tous ces arguments démontrent que la censure doit exister dans certains contextes.
Merci vous deux. Avant de rendre le jugement final, nous allons faire place à Marie-Claude Lacroix, une vraie avocate, qui saura nous éclairer sur le sujet.
Aujourd'hui, on reçoit en studio l'avocate Marie-Claude Lacroix, qui agira à titre d'experte dans notre procès.
Marie-Claude Lacroix, vous êtes avocate en droit criminel et en droit carcéral.
Oui, c'est exact.
En plus de travailler en droit humain, à l'international, vous avez également votre propre cabinet d'avocat depuis près de 8 ans.
Exact, tout à fait.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir, merci à vous de me recevoir.
Tout d'abord, pourquoi vouliez-vous devenir avocate?
En fait, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours eu un intérêt au niveau du droit. Ça s'est développé tranquillement à travers mes études, mais ça a commencé dès le secondaire. Il y avait beaucoup l'aspect d'intervenir dans des problèmes sociaux majeurs, de sentir comme un acteur actif de la communauté. Puis également l'aspect humain, les relations qu'on crée à travers ce travail-là. Il y a une relation d'aide, mais aussi une relation qui va plus loin de défendre certains principes qu'on a choisis en tant que société.
Avez-vous un cas que vous avez défendu ou un moment de votre carrière inoubliable?
Il y en a plusieurs. Je pense que pour tout avocat, le premier procès, la première fois qu'on procède seul en cours est inoubliable. Mais un cas qui m'a particulièrement marqué, c'était un jeune autochtone qui avait environ mon âge à l'époque. Donc, il avait une trentaine d'années et il avait vécu tous les facteurs socio-systémiques, donc tous les traumatismes que les communautés autochtones ont pu vivre. Et quand on est passé en salle de cours, la juge s'est mise à pleurer quand elle a lu le rapport sur sa vie. Et le client, ça faisait plusieurs années qu'il était en détention. L'audience allait permettre de le remettre en liberté. Il avait tellement peur de retourner vivre en société qu'il s'est mis la veille à tout casser dans sa cellule. Et on m'a appelé en panique pour que je puisse intervenir. Et donc, le lendemain, à la cour, pour que monsieur consente à sortir, je lui ai dit que j'allais l'attendre en maison de transition et je l'ai reçu en maison de transition pour qu'il puisse se calmer et accepter de retourner en société. Et après ça, le retour a été très complexe, donc ça a été un moment très marquant.
Avez-vous la liberté de vous-même choisir vos clients? Si oui, avez-vous déjà refusé de défendre une client?
Oui, en fait, quand on travaille en cabinet privé, c'est nous qui choisissons nos clients. Donc, on a toujours la liberté de refuser des cas si on n'est pas à l'aise. Ou même, des fois, il y a certains clients avec qui le lien va moins passer et tout. Donc, on a également la liberté de refuser le dossier. Et c'est quelque chose qui arrive quand même fréquemment, là.
Est-ce qu'il y a un cas que vous rêveriez de défendre?
Je pense que, comme tout avocat, il arrive un moment dans notre pratique où le défi au niveau du droit est clairement intéressant et d'aller en Cour suprême, d'avoir un challenge intellectuel qui est à clairement un autre niveau serait clairement un défi qui m'intéresserait. Sinon, de mon côté, les dossiers, c'est davantage une relation humaine. Donc, c'est pas nécessairement des cas, mais c'est plus des relations humaines ou des contacts avec certains êtres humains qui sont à privilégier.
Depuis les dernières années, on entend souvent que la justice n'est pas adaptée à certains cas, comme dans les cas d'agression sexuelle. Selon vous, est-ce que c'est vrai? En 2024, quel est le rôle de la justice et du tribunal dans la société?
C'est toute une question. C'est vrai, je pense, de dire que la justice ou le système judiciaire n'est pas nécessairement adapté à certains cas. On parle souvent des victimes d'agression sexuelle, ce qui est vrai. Mais c'est aussi vrai pour certains types d'accusés. Si je pense, par exemple, aux personnes plus démunies qui ont des problèmes de santé mentale ou les communautés autochtones, entre autres, le système judiciaire ou les propositions qu'on offre sont plus ou moins adaptées. Par exemple, au niveau de la communauté Inuit, quand les Inuits sont remis en liberté, on va souvent, pas nécessairement les Inuits, mais s'ils respectent certains critères, ils vont être placés en maison de transition. Mais les maisons de transition sont généralement en centre urbain. Donc, une fois qu'ils sont remis en liberté, ils ne peuvent pas retourner en communauté. Ils se retrouvent à être à plusieurs milliers de kilomètres de leur communauté, donc complètement isolés. Et on va réitérer ou accentuer certaines problématiques qui existent déjà. Donc, clairement, ça donne un exemple de certaines problématiques que même les accusés peuvent vivre par rapport au système judiciaire.
Selon vous, qu'est-ce que ça prend pour être une bonne avocate en droit criminel et carcéral?
Je pense que ça prend beaucoup de détermination, beaucoup d'écoute, beaucoup d'ouverture, puis de ne pas arriver avec une idée préconçue, d'être ouvert aux autres horizons, puis même si après analyse, on en arrive à une conclusion, d'être ouvert à ce qu'il y a autour, aux autres conclusions possibles, pour constamment se renouveler, puis renouveler notre façon d'analyser les problématiques.
Quelle est la partie que vous considérez comme la plus difficile de votre métier?
Je pense qu'encore une fois, c'est au niveau des relations humaines. Tant c'est un côté positif, tant c'est un côté qui peut devenir plus difficile. De plus en plus, les ressources en matière de travailleurs sociaux, de psychologues, de psychiatres en détention sont très limitées. Donc, les gens ont tendance à se tourner vers leur avocat quand ils souffrent d'une certaine problématique ou, par exemple, quand ils vont avoir des pensées suicidaires. Et on n'a pas tout le temps les outils nécessaires pour être en mesure de les accompagner dans ces problématiques-là.
On a une question intéressante qui n'est pas comme les autres questions. Avez-vous déjà dit « objection, votre honneur » pendant un procès, comme on le voit souvent à la télévision?
Oui, c'est quelque chose de courant. En fait, c'est même important et essentiel quand on plaide de s'objecter parce que c'est pas tout le temps pertinent les questions de l'autre partie ou des fois, c'est des questions que l'autre partie n'est pas vraiment autorisée à poser. Donc, on doit tout le temps être sur nos gardes et être prêt à s'objecter à une question qui n'a pas lieu d'être.
Parfait. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Ça nous fait vraiment plaisir.
Merci à vous deux de m'avoir reçu.
Merci, Madame Lacroix.
Merci.
Dans l'affaire en question, la Cour reconnaît que la censure bien qu'elle puisse être justifiée dans certains contextes exceptionnels, soulève des questions fondamentales liées à la liberté d'expression.
La Cour considère que, dans une société démocratique, la tolérance envers une diversité d'opinions est essentielle pour favoriser un débat ouvert et constructif, garantissant ainsi la libre circulation des idées.
Ainsi, la Cour conclut en plaidant contre la censure et encourage la recherche de solutions alternatives pour prévenir les abus sans compromettre la liberté d'expression.
C'est ce qui conclut notre troisième épisode sur la censure. On voulait dire merci à Tamiela, Ala et Minat pour leur participation au tribunal. Et un autre merci tout spécial à Marie-Claude Lacroix pour avoir répondu à toutes nos questions. Un dernier merci au Mixlab de la Bibliothèque de Boisé et au Carrefour Jeunesse Emploi de Saint-Laurent. Rendez-vous la prochaine fois pour un tout nouvel épisode. À bientôt!